Je vous souhaite un beau réveil et l'on poursuit dans ces matins de France Culture avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. C'est l'heure de vérité pour Theresa May. La première ministre britannique réunit son cabinet cet après-midi au 10 Downing Street pour présenter les détails de l'accord technique qui a été trouvé hier entre Londres et Bruxelles. Le Royaume-Uni pourrait rester temporairement dans une union douanière. Les partisans d'un Brexit dur pourraient lâcher Theresa May. Vous l'entendrez.
L'ONU demande au Bangladesh d'arrêter le rapatriement des Rohingyas en Birmanie. Crainte pour la vie des membres de cette minorité musulmane, victime selon les Nations Unies de génocide.
À 3 jours des manifestations sur le pouvoir d'achat et contre la hausse du prix des carburants, l'exécutif monte au front aujourd'hui. Édouard Philippe doit annoncer ce matin des mesures d'accompagnement de l'augmentation des taxes des carburants.
Et puis Catherine, dans une dizaine de minutes, la question du jour. Vous les avez probablement vus, ces feux de forêt en Californie, des feux terribles. Ils ont fait déjà plus de 50 morts avec 200 personnes portées disparues. Comment expliquer la multiplication de ces feux.
Qui tout double pour Theresa May, la première ministre britannique va tenter cet après-midi de convaincre les membres de son gouvernement de surmonter leur division sur le Brexit pour approuver le projet d'accord trouvé hier à Bruxelles sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne prévue le 29 mars prochain. 400 pages de détails techniques que Theresa May a refusé d'envoyer à ses ministres. De simples consultations possibles au 10 Downing Street. Pas question d'abattre ses cartes trop tôt. La première ministre britannique sait qu'elle peut encore être lâchée par les plus eurosceptiques dans son camp conservateur. Bonjour Antoine Gignot.
Bonjour.
Vous êtes le correspondant de France Culture à Londres. Si le projet d'accord sur le Brexit n'a donc pas été divulgué, la question de la frontière irlandaise était, on le sait, l'une des pierres d'achoppement entre Londres et Bruxelles et les solutions trouvées pourraient faire grincer des dents, Antoine.
Oui, le texte est tellement sensible que Theresa May a tenté jusqu'au bout de le garder secret. Il n'a pas été envoyé en intégralité aux ministres. Les membres du gouvernement ont juste eu le droit de venir cette nuit au 10 Downing Street les uns après les autres pour consulter le dossier. Ils n'ont eu chacun que quelques dizaines de minutes seulement pour consulter les 400 pages de détails techniques. La principale idée pour éviter le retour d'une frontière en Irlande, ce serait de maintenir la totalité du Royaume-Uni dans une union douanière avec les mêmes taxes que pour les pays européens. Pas besoin donc de douaniers, pas besoin de contrôle, pas besoin de frontières. L'Irlande adopterait en plus des réglementations calquées sur celles de l'Union européenne, les normes de qualité par exemple, pour que le commerce puisse continuer de manière fluide entre le nord et le sud. Mais le problème, c'est que ce Brexit ne ressemble du coup pas vraiment à un Brexit. Les Britanniques ne seraient notamment plus capables de fixer leurs propres tarifs, leurs propres taxes. À droite de la droite, Jacob Rees-Mogg dénonce un accord qui ferait du Royaume-Uni un État vassal de Bruxelles.
Et l'aval du gouvernement britannique est nécessaire pour permettre l'organisation d'un sommet avec les dirigeants européens afin de valider l'accord sur le Brexit. Theresa May pourrait donc faire face à une nouvelle rébellion au sein de son gouvernement et au sein du Parlement avec les partisans d'un Brexit dur, d'une rupture totale avec Bruxelles, Antoine.
Absolument. Le principal risque, c'est la démission d'une partie du gouvernement. Après le départ de David Davis et Boris Johnson cet été, après le départ de Joe Johnson, le frère de Boris, il y a quelques jours, 4 ministres pourraient aujourd'hui claquer la porte. Et pas des moindres, Jeremy Hunt aux affaires étrangères. Une partie des conservateurs tente de le convaincre de prendre la place de Theresa May à Downing Street. Penny Mordaunt, chargée de l'aide internationale et eurosceptique convaincue, veut, elle, imposer une sortie radicale de l'Union européenne. Et même Dominic Raab, le ministre du Brexit, pourrait s'opposer au plan négocié entre Bruxelles et Londres. Le Daily Telegraph rapporte des propos qu'il aurait tenus en privé. Il vaut mieux une sortie sans accord du tout, plutôt qu'un Brexit qui laisse le Royaume-Uni prisonnier. Enfin, même si Theresa May arrive à convaincre son équipe, il faudra dans les semaines qui viennent déployer aussi des efforts considérables pour faire accepter ce texte aux députés.
Antoine Gignot en direct de Londres pour France Culture. Theresa May qui réunit donc son cabinet à partir de 15h. Le gouvernement irlandais devrait lui aussi se réunir aujourd'hui. De leur côté, les ambassadeurs des 27 pays de l'Union européenne se retrouvent cet après-midi à Bruxelles. Et voici une nouvelle épine dans le pied de l'Union européenne. Le gouvernement populiste italien a confirmé hier soir qu'il n'allait pas céder aux injonctions de la Commission pour revoir son budget 2019. Déficit prévu à 2,4% du PIB. PIB l'an prochain. Prenant le risque de sanctions financières, Rome compte bien relancer l'économie italienne par la demande en mettant en place un revenu minimum et en baissant les impôts. Les 5 étoiles et la Ligue veulent tenir leurs promesses électorales avant les élections européennes. Par ailleurs, le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte a estimé hier que le processus de stabilisation de la Libye doit être laissé aux Libyens. Déclaration en clôture de la conférence de Palerme en Sicile. Une conférence internationale qui a été minée par les divisions entre Libyens d'une part et entre des pays tiers d'autre part, des pays qui veulent jouer un rôle pour mettre fin au chaos politique et sécuritaire qui règne en Libye depuis la chute de Muammar Kadhafi. Tout reste à faire pour Ghassan Salamé, l'envoyé spécial de l'ONU pour la Libye, que notre envoyé spécial à Palerme, Omar Waman, a pu rencontrer.
À l'issue de cette conférence, Ghassan Salamé a définitivement enterré la perspective d'élection présidentielle le 10 décembre prochain, comme annoncé il y a 6 mois lors de la réunion de Paris.
Le 10 décembre, c'était difficile avec les combats dans les rues de Tripoli. C'était difficile de faire quoi que ce soit au niveau politique ou au niveau électoral. Maintenant, il y a une éclaircie.
L'éclaircie, c'est ce fragile cessez-le-feu en vigueur dans la capitale, mais qui ne règle pas les divisions entre les différents acteurs sur le terrain.
La Libye, ça n'est pas Monsieur X, Y et Z. C'est aussi des tribus, c'est aussi des groupes politiques. Je dirais que c'est un pays où les acteurs à l'intérieur, s'ils se mettaient d'accord, pourraient imposer leur volonté aux ingérences extérieures.
Car cette conférence de Palerme a également mis en lumière les rivalités sur ce dossier libyen, notamment entre la France et l'Italie, ce qui rend d'autant plus compliquée la mission de Ghassan Salamé, même si ce dernier refuse de la qualifier d'impossible.
Je ne calcule pas l'impossibilité ou la possibilité des choses. Du moins, moi, personnellement, je ne peux pas vivre autrement.
Et pour être au plus près de la population, Ghassan Salamé s'est installé à Tripoli et compte bien remettre l'ONU au cœur du processus de réconciliation politique en Libye.
Les Nations Unies appellent à suspendre le processus de rapatriement des Rohingyas en Birmanie alors que 700 000 membres de cette minorité musulmane ont fui la Birmanie donc et les persécutions de l'armée notamment trouvant refuge au Bangladesh voisin. 2200 personnes pourraient être rapatriées cette semaine selon un accord conclu entre les gouvernements bangladais et birman. L'ONU craint pour la vie de ces Rohingyas. La correspondance à Rangoon d'Elisa Hunt.
Pour Michelle Bachelet, à la tête du Haut Commissariat pour les droits de l'homme, renvoyer les Rohingyas en Birmanie mettrait leur sécurité et leur liberté en danger, surtout que l'ONU continue de recevoir des rapports sur les violations des droits de l'homme subies par ceux qui se trouvent encore dans l'état de l'Arakan. Des milliers de Rohingyas vivent actuellement dans des camps de déplacés dans l'ouest birman, sans pouvoir en sortir, et pour les autres, les restrictions de mouvement, d'accès à la santé ou à l'éducation sont toujours présentes. Pour les réfugiés au Bangladesh, c'est donc la terreur et la panique à l'idée d'être forcé de revenir en Birmanie ce jeudi, selon Michelle Bachelet. Depuis plusieurs jours, l'ONU multiplie les mises en garde face au rapatriement imminent. Les Nations Unies, qui n'ont pas été consultées au sujet de ce retour décidé entre la Birmanie et le Bangladesh, l'ONU avait pourtant signé un accord il y a quelques mois avec les autorités birmanes pour évaluer les conditions de ces retours, des conditions que l'instance internationale ne juge pas encore propices. Si le rapatriement a déjà été annoncé à plusieurs reprises depuis le début de l'année, puis finalement reporté, le Bangladesh paraît cette fois déterminé à le mener à bien. Le pays ne veut pas que les Rohingyas restent indéfiniment sur son sol, avec une aide humanitaire internationale insuffisante. Et la Chine, soutien de la Birmanie et important investisseur au Bangladesh, fait pression pour que le rapatriement avance. Pékin a de forts intérêts économiques dans l'état de l'Arakan et espère davantage de stabilité dans la région.
Elisa Hunt à Rangoon pour France Culture. Les islamistes du Hamas et les groupes armés palestiniens annoncent un cessez-le-feu avec Israël, accord conclu indirectement avec la médiation de l'Égypte hier, après la plus sévère confrontation entre les deux camps depuis la guerre de 2014. Emmanuel Macron a fermement condamné les nombreux tirs de roquettes par le Hamas sur Israël et appelé toutes les parties à éviter un nouveau cycle de violences meurtrières. C'était lors d'un entretien téléphonique avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Emmanuel Macron qui a essuyé hier une série de tweets très énervés de Donald Trump à propos de la création d'une armée européenne. L'occasion pour le président des États-Unis de railler l'impopularité de son homologue français. On y revient dans le journal de 7h30.
7h09, la suite du journal de Catherine Dutu dans les matins de France. Culture, Emmanuel Macron en chef des armées françaises. Il se rend ce soir sur le porte-avions Charles de Gaulle et il va passer la nuit à bord alors que le Premier ministre, lui, va tenter de rassurer les automobilistes ce matin. matin.
Édouard Philippe doit annoncer des mesures pour aider les Français à faire face à la hausse du prix des carburants. À 3 jours de la mobilisation annoncée des Gilets jaunes, des dizaines de milliers de Français sont attendus dans la rue samedi et peut-être certains politiques à leur côté. Mais aucun parti n'appelle à manifester. Chacun fera selon son bon vouloir, dit-on dans les couloirs de l'Assemblée, Marjorie Péjac.
Descendre dans la rue manifester, oui, peut-être, ou non. Au Parti Socialiste, on ne sait pas vraiment. Olivier Faure, premier secrétaire du PS.
Ce que je ferai samedi, je ne sais pas encore, parce que j'attends de voir quelles sont les mobilisations qui s'organiseront dans mon département. Et je serai à l'écoute de celles et ceux qui ont pris la décision de manifester.
Chez les Républicains, les avis divergent, notamment entre les députés Éric Ciotti et Philippe Gosselin.
Je serai sur le terrain le 17 novembre. Je soutiens cette colère qui exprime le ras-le-bol fiscal.
Les Japonais, ils font grève en ayant un brassard tout en travaillant pour dire qu'ils font grève. Eh bien, moi, je garderai mes inaugurations, le programme qui est prévu le 17. Mais j'aurai le gilet jaune qui permettra, je pense, en un seul coup d'œil, de voir ce que je défends ce jour-là.
Du côté d'En Marche, on essaie de se rassurer. Olivier Véran, député de l'Isère.
Comme le prix du baril de pétrole a chuté très fortement, le prix de l'essence chute très fortement. Je crois qu'il a perdu 4 centimes le litre déjà à la pompe. Si la contestation était portée par la grogne contre le prix de l'essence, eh bien écoutez, je pense qu'il y aura moins de monde samedi.
Réponse, dans 3 jours, pour l'instant, plus de 600 rassemblements sont prévus un peu partout en France.
9 jours après l'effondrement d'immeubles dans le centre-ville de Marseille, effondrement qui ont fait 8 morts, et au lendemain d'une vaste perquisition dans divers services de la mairie, une marche de la colère est organisée ce soir à Marseille contre l'habitat indigne et insalubre à Marseille et sur son territoire. Un projet immobilier contesté au nord de Paris, Europa City, un méga complexe de loisirs et de commerce avec une piste de ski intérieure, est donc contesté au nord de Paris. C'est un projet de la filiale immobilière du groupe Auchan et du groupe chinois Vanda qui prévoit d'urbaniser un triangle de terres céréalières à Gonesse, des terres qui figurent parmi les plus fertiles d'Europe, enclavées entre les aéroports du Bourget et de Roissy et l'autoroute A1. Cette bétonisation suscite depuis des mois une bataille juridique et ce matin, le tribunal de Pontoise doit statuer sur une demande d'expulsion après que des opposants au projet ont planté sur l'une des terres contestées des choux, carottes et autres légumes. Le temps de ce mercredi 14 novembre, il s'annonce gris mais doux sur l'ensemble de l'Hexagone. Les températures sont comprises ce matin entre 0 et 6 degrés sur la moitié nord, comptez de 6 à 15 au sud. Cet après-midi, il fera entre 11 et 17 degrés en général au nord, 15 à 20 au sud.